Le cours du Bitcoin monte et descend. Mais qu'est-ce qui justifie sa valeur? Qu'est-ce que le Bitcoin? Parlons Bitcoin, brisons le mythe, pas pour faire de l'argent, mais pour faire l'argent. Je m'appelle Emmanuel, et depuis 2017, j'ai passé des milliers d'heures à creuser le sujet. C'est parti. Bonjour et merci d'écouter ce nouvel épisode de Parlons Bitcoin. Aujourd'hui, je rencontre Gustavo Flores et Maciek Sepnik de Verify. J'ai déjà rencontré Maciek une première fois dans l'épisode 8 où il nous disait, je cite, « Le monde ne va pas choisir Bitcoin, il va en avoir besoin ». Tu l'auras compris, Maciek et Gustavo sont deux bitcoiners de longue date à la conviction très forte. Je les ai invités pour discuter de la conférence Bitcoin qui a eu lieu récemment à Miami. Cet épisode va toucher 4 sujets principaux. Le premier, c'est le Bitcoin en Amérique du Sud et au Salvador, où il est récemment devenu monnaie à cours légal. Ensuite, on va parler de l'hyper-bitcoinisation qui pourrait en découler. Alors, qu'est-ce que l'hyper-bitcoinisation? C'est le phénomène durant lequel les monnaies fiat perdent toute leur valeur pour être complètement absorbées dans le Bitcoin. Dans un futur hyper-bitcoinisé, un Bitcoin vaudrait, par exemple, 1000 milliards de dollars, simplement parce que le dollar ne vaut plus rien et que désormais tout est mesuré en Bitcoin. C'est la destination que je pense que le monde est en train de prendre, mais bien sûr, ça prend le temps que ça prend. Ensuite, on va parler de Ross Ulbricht, le fondateur de Silk Road, et on va terminer l'épisode en parlant d'humilité et pourquoi cette valeur est importante pour les bitcoiners. Je te laisse découvrir tout ça, on s'est bien amusé à enregistrer l'épisode, donc je te souhaite de t'amuser aussi en l'écoutant. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Parlons Bitcoin. Aujourd'hui, je suis avec Gustavo et Maciek de Verify qui viennent nous parler de Miami 2021, qui est une conférence qui a eu lieu début juin. Gustavo, Maciek, bienvenue sur Parlons Bitcoin.
Merci à toi, Emmanuel.
Merci de la bienvenue, Emmanuel.
Alors les gars, vous êtes allés à Miami 2021. Comment ça s'est passé? Quelles sont les choses marquantes qui sont passées là-bas? Peut-être Maciek, tu peux commencer?
Oui. En fait, c'était très impressionnant d'avoir un autant grand nombre de Bitcoiners sur place qui ont toujours sensiblement les mêmes visions, les mêmes valeurs, communiquer puis se rassembler au même endroit. Donc, il s'est passé beaucoup d'événements, il y a eu beaucoup d'annonces, notamment celle du El Salvador. Je pense que c'est le plan d'en parler un peu plus tard. Également, des trucs avec concernant Free Ross, des politiciens qui étaient sur place, des compagnies, évidemment, qui annonçaient des produits, quoi que ce soit. Donc, beaucoup d'événements qui se sont passés. Difficile de résumer ça en quelques lignes, quelques phrases, vu que c'était quand même deux grosses journées, en plus de tous les événements annexes qui se sont passés durant l'événement. Donc, beaucoup de choses qui se sont passées, là.
Et pour toi, Gustavo, l'effet marquant, un petit peu, c'était quoi?
Ben, l'effet marquant, c'était de rencontrer autant de monde qui sont comme moi, qui lisent les mêmes choses que moi, qui ont les mêmes expressions que moi. Y en a un à Montréal, où est-ce que j'habite, puis on se rencontre, au moins on se rencontrait avant le COVID. Mais là, de voir autant de monde en grand nombre, et du monde que sur Twitter, c'est juste des personnages anonymes. Des fois, tu te demandes c'est qui la personne derrière le pseudonyme. Puis là, tu les rencontres en vrai et tu vois qu'ils sont quand même comme... On partage plusieurs points en commun, même s'ils viennent de tous les coins du monde. Puis aussi, ce qui m'a marqué aussi, c'est le fait que la communauté Bitcoin a une attitude d'aucune tolérance envers les shitcoins ou simplement les escroqueries en général. Et ça s'est vu, disons, quand Floyd Mayweather, qui est un boxeur, un des plus connus du monde, a commencé à dire qu'un jour, une autre crypto-monnaie serait plus grande que le Bitcoin. Et toute l'audience s'est mise contre lui. Tout le monde s'est mis à le bouer. Donc, ça, c'est super impressionnant de voir quelqu'un, une célébrité, se faire attaquer quand elle dit des niaiseries comme ça. Peu importe qui elle est. T'sais. Puis, une communauté qui est là à lutter contre toutes les tentatives de shitcoinery.
Cool. Est-ce que ça veut dire, finalement, pour les Bitcoiners, tels qu'ils étaient présents à ce moment-là, dans le fond, le statut social n'a en quelque sorte pas d'importance, quoi. Ce qui compte, c'est ce qui est dit. Et si ce qui est dit n'est pas juste ou a vocation à arnaquer les gens, ben, ce sera dénoncé, quoi. C'est ça que t'as vu?
Exactement. C'est exactement ça que j'ai vu.
Et est-ce que c'était votre première conférence Bitcoin comme ça? Est-ce que vous avez déjà fait d'autres événements de cette envergure? C'était la première fois?
C'était la première d'aussi grande, mais c'était également la première fois qu'une conférence Bitcoin atteignait ce niveau de de grandiosité, je dirais. On est déjà allé, par exemple, pour l'anniversaire de 10 ans à MIT, à Boston. C'était plus une conférence axée sur le savoir et moins sur le divertissement, je dirais. On est allé aussi également à New York pour la conférence Lightning en 2019, si je me trompe pas. Et évidemment, tous les événements qu'on organise à travers Bitcoin Montréal, c'est comme des mini conférences, on peut dire, même si c'est plus des meet-up. Donc non, c'était pas notre première conférence, mais celle-ci a de loin dépassé en termes d'audience, en termes d'annonces ou en termes de vraiment de Bitcoin en général, tous les autres qu'on a assistés, je crois, là. Je sais pas si tu es d'accord, Gustavo.
Je suis d'accord.
Parfait. Justement, vu que le niveau de bitcoinerie, entre guillemets, était assez élevé, est-ce que ça vous a donné des idées pour votre façon de travailler, mettons? Est-ce que ça vous a dit, ah ouais, tu sais, j'ai appris ça, fait que maintenant, pour Verify, on va faire ça. Est-ce que ça a donné des choses qui vont être pratiques pour vous?
Certainement. De tous les bords, tu sais. Puis je dirais que les idées, c'est ça qui manque pas. Dans le fond, ce qui m'a vraiment impressionné, c'est de voir l'adoption de Lightning à tous les niveaux, surtout de manière internationale. Lightning va être la couche de paiement par défaut au Salvador. Donc, nous, Verify, on va travailler sur Lightning dans les semaines à venir. T'sais. Donc, ça, parmi tant d'autres questions, idées, aussi de travailler à l'international. T'sais. Nous, on est concentrés sur le marché canadien, mais le Bitcoin, c'est pour le monde entier. Puis, l'Amérique latine est en train de sauter rapidement là-dessus. Donc, peut-être regarder l'Amérique latine pour Verify, ça serait dans nos plans dans les mois, années à venir aussi.
Est-ce que tu as quelque chose à ajouter, Maciek?
Non, c'est vraiment Gustavo résume bien ce que je voulais dire aussi.
Ok, merci. Alors, tu as parlé d'Amérique latine, Gustavo, et puis on a parlé un petit peu du Salvador. Est-ce que vous pourriez résumer c'est quoi cette nouvelle du Salvador? Qu'est-ce qui s'est passé? J'imagine que vous étiez dans la conférence. Qu'est-ce qui s'est passé? Puis qu'est-ce qui est important à retenir de ça?
Certain. Ça a commencé avec un discours de Jack Mallers. En fait, Jack Mallers était la star de la conférence. Il est comme le CEO et fondateur de Strike, une compagnie de paiement qui utilise Lightning pour faire des paiements à l'international. Puis, il a commencé avec un discours très émotionnel. Il est depuis quelques mois au Salvador, dans une ville ou un projet qui s'appelle Bitcoin Beach, donc la plage Bitcoin, où ils sont en train de construire une ville, une plage dédiée au Bitcoin, où est-ce que l'économie est circulaire, tout est payable en Bitcoin. Absolument toutes. Donc, à partir de ce projet-là, le gouvernement du Salvador s'est rapproché de lui. Puis, ensemble, ils ont discuté du Bitcoin et d'autres futurs, et du futur en général. Puis, l'idée est venue à partir des discussions entre Jack Mallers, puis le président du Salvador, de simplement adopter le Bitcoin comme la monnaie du Salvador. Et ça s'est passé extrêmement vite. Vendredi, non, excuse-moi, samedi, qui était le dernier jour de la conférence, Jack Mallers a annoncé, en fait, a affiché un message aux vidéos du président du Salvador disant que le Bitcoin allait devenir la monnaie du Salvador. Pas à remplacer la monnaie existante du Salvador, qui est le dollar américain, mais à coexister ensemble, que les deux aient le même statut de monnaie officielle. Et ça a pris 4 jours, je pense, c'était mardi de cette semaine. Il y a 3 jours que le Salvador a mis cela en loi officiellement. Donc, Jack Mallers était émotif. Il a annoncé la chose comme le monde a changé. Et on voit que depuis ce moment-là, le monde a changé. Plusieurs autres pays sont intéressés par ça. Ce que ça va faire, dans le fond, c'est que le Salvador, tout le monde est obligé à accepter un paiement en Bitcoin. Donc, c'est juste la monnaie courante. Donc, tu dois être capable de Quelqu'un doit être capable de payer en Bitcoin partout. L'État va rajouter le Bitcoin dans ses réserves. Les volcans au Salvador vont être utilisés pour miner du Bitcoin. Il va avoir aucun impôt sur les revenus ou les profits générés par la spéculation sur le Bitcoin. Donc, on voit un ensemble d'initiatives pour attirer du capital externe au Salvador pour que ça devienne comme la capitale mondiale du Bitcoin.
Pourquoi est-ce que les autres pays suivent? Est-ce que c'est parce que le président a profondément compris ce qu'était le Bitcoin, ou c'est plutôt parce que il y a un côté spéculatif de on cherche par tous les moyens de faire monter le number go up, on veut à tout prix avoir de l'argent, ou est-ce qu'il y a vraiment une dimension de j'ai compris l'impact que ça peut avoir sur la société d'adopter du Bitcoin? C'est quoi votre avis là-dessus?
Moi, je crois que d'un côté, il a absolument très bien compris l'univers des Bitcoiners. On le voit parce qu'il utilise les mêmes mimes. Il a mis les EAs, il a joint des conversations avec Jack Mallers. Donc, je pense que lui et son équipe plus proche politique ont très bien cerné les Bitcoiners. Ils ont compris les mimes un peu qui font vivre le Bitcoin en général. Mais au-delà de ça, je pense pas que c'est juste une question de lui faire monter le prix du Bitcoin, mais c'est vraiment très stratégique puisque, sachant que le Salvador n'a pas sa propre monnaie nationale, le fait on s'entend que c'est pas la démocratie parfaite au El Salvador. Donc, il y a quelques semaines, je sais que Gustavo m'en a parlé, c'est que le président, il prend de plus en plus contrôle, que ce soit au niveau judiciaire, au niveau législatif, puis il met les opposants de côté. Donc, pour lui, il a commencé à avoir des restrictions d'un point de vue monétaire de la part des États-Unis. Donc, pour lui, adopter le Bitcoin, c'est une solution, c'est un peu obligé dans le fond, parce qu'il est dépendant du dollar américain. Donc, c'est pas juste une question de faire monter les Bitcoins que lui, potentiellement, personnellement, ou son pays, c'est une façon de sortir du système qui est imposé par les États-Unis.
Je crois qu'il y a aussi une autre dimension dont t'as pas parlé, Gustavo, c'est l'aspect des virements depuis l'étranger aussi, que le Salvador va, je crois c'est 20% de son produit intérieur brut qui dépend des envois de l'argent de l'étranger. Puis là aussi, il y a un lien avec le Bitcoin. Est-ce que c'est quelque chose dont Jack Mallers a parlé sur scène, ou c'est plus par la suite que c'est apparu?
Oui, en effet, t'as totalement raison. Tu vois, tellement de choses sont passées depuis que j'ai oublié le point initial qui était celui des transactions internationales. Donc, 28% du budget du Salvador annuel vient des transferts internationaux. Ben, c'est du monde qui déménage aux États-Unis souvent, ou au Canada, ou en Europe, habituellement, qui, surtout aux États-Unis, qui renvoient de l'argent à leur famille au Salvador en utilisant des services comme Western Union et en payant plusieurs pourcentages en frais. Et c'est plus qu'un quart de l'économie du Salvador que si ça sert juste à ce but-là. Donc, Strike de Jack Mallers permettrait aux Américains d'envoyer des dollars ou des bitcoins à travers Strike à leur famille au El Salvador. Puis, la personne pourrait recevoir ça soit en dollars, soit en bitcoin. Ça utiliserait le bitcoin, peu importe, là. Ça pourrait juste être fait de manière abstraite. Ça utiliserait le réseau Lightning pour faire des transactions instantanées à aucun frais. Et on voit déjà que Strike est le app le plus populaire au El Salvador depuis 2 semaines déjà environ. Donc, clairement, le monde est en train de le faire et ça fonctionne extrêmement bien.
Ok, merci. Donc pour résumer, ça veut dire, au lieu de payer 20 dollars de frais quand tu envoies 100 dollars, ben tu t'envoies 100 dollars puis tu reçois à peu près 100 dollars de l'autre côté, ce qui fait une grosse différence quand c'est tout le monde qui a besoin d'envoyer de l'argent dans le pays. Ça me fait penser à une petite question. En fait, là, on dit, bon, là, c'est pas une démocratie parfaite, le Salvador. Que pensez-vous du fait que ce soit l'État qui impose d'accepter le Bitcoin? Parce que, mettons, nous, on pense que le Bitcoin, c'est une bonne idée, mais si l'État avait imposé, je sais pas moi, l'utilisation de l'Ethereum, que pensez, quoi? Est-ce que c'est une bonne chose que ça passe par l'État? Est-ce que parce que c'est du Bitcoin, on s'en fout parce que de toute façon l'État pourra pas le contrôler? C'est quoi un peu votre opinion là-dessus, sur le fait que ça vienne du haut?
Ben, mon opinion là-dessus est que ça vient du haut, mais qu'est-ce qui vient pas du haut? Qu'est-ce qui vient pas du gouvernement dans cette ère où est-ce que le gouvernement domine la planète entière? Donc, est-ce que c'est la même chose pour le dollar US? Oui, c'est la même chose au El Salvador. C'est la même chose depuis des décennies. Donc, je m'attendais pas à grand-chose de plus que ça. Faut pas voir les choses en blanc ou noir. On est dans une phase de transition. Peu à peu, les choses vont se faire. C'est juste la première étape. À travers cette initiative, les gens vont reprendre de plus en plus de pouvoir, puis le gouvernement va en avoir de moins en moins. Et un jour, les mesures ne viendront pas du gouvernement, elles viendront du peuple. Et mettre le Bitcoin dans la main des gens est juste la première étape pour se rendre à cet objectif.
Dans ce cas-là, mettons le fait que le président prenne plus de contrôle, est-ce que tu crois qu'il réalise qu'il va le perdre au fur et à mesure, si justement le peuple comprend mieux le système, utilise des meilleurs outils? Est-ce que ça veut dire qu'il est conscient de ça? Est-ce que c'est comme un acte, entre guillemets, de sacrifice de sa part, je sais pas? Qu'est-ce que t'en penses?
Je pense que je dirais pas que le président prend nécessairement plus de contrôle, tu vois. Genre le Salvador a juste une histoire où est-ce que les gouvernements prennent le contrôle. C'est le statu quo. Les gens peuvent prétendre autrement, mais c'est quand même le statu quo. C'est comme ça depuis 200 ans. Donc premièrement, je pense pas que c'est une anomalie là. C'est juste la normale. Mais par rapport au fait qu'il réalise ça, je pense pas qu'il réalise tout à fait qu'est-ce que le Bitcoin est en train de faire. Je pense qu'il réalise que ça donne du pouvoir à son pays souverain, où est-ce que lui a une massive influence, un massif contrôle. Donc, ça lui donne du pouvoir à lui aussi. Ça, il réalise définitivement. Puis ça, c'est la première étape à que ça donne du pouvoir à son peuple. Je pense qu'il veut que son peuple ait du pouvoir parce qu'il veut que son État soit fort. Est-ce que sur le coup, il va perdre tout pouvoir de cette manière? Est-ce qu'à long terme, il va perdre tout pouvoir? Je pense pas non plus. Je pense que le gouvernement peut garder le pouvoir à un certain point, même si le peuple en prend plus. Moi, je vois juste ça comme une situation gagnante-gagnante.
Ouais, effectivement, je comprends ce que tu veux dire. On pourrait imaginer que les deux soient satisfaits de cette entente, c'est-à-dire le peuple devient plus souverain, l'État, lui, devient plus fort, parce qu'il a plus de ressources. Finalement, les deux deviennent contents, et puis peut-être qu'aussi une discussion s'établit plus entre le peuple et l'État. Et donc, ils puissent vraiment collaborer comme c'est censé être dans une démocratie. Ok. Est-ce que t'avais des choses à rajouter, Maciek, sur cette question un petit peu du Salvador, du pouvoir, du président? Est-ce qu'il y a des idées qui sont venues pendant qu'on parlait?
Vite comme ça, non. Je pense que Gustavo a raison. Pour l'instant, on est encore pris dans le paradigme des nations-États, donc on est encore sujet à ce que les politiques et les changements viennent du haut, comme il dit. Mais éventuellement, ça va se transformer, peut-être justement. El Salvador, c'est la première situation, le premier cas d'une migration vers quelque chose de nouveau. Donc, ça va être très intéressant de voir comment ça va s'opérer.
Effectivement, ça va être intéressant dessus parce que je pense que les autres pays, puis ceux qui détiennent un petit peu le dollar US, États-Unis, ça met en question leur autorité, en fait, sur tous les pays dollarisés. Donc, ça va être intéressant de voir comment ça peut évoluer cette situation. Est-ce que vous avez d'ailleurs une idée de où ça va aller, parce que vous avez parlé d'Amérique du Sud. Est-ce que ça veut dire, d'après vous, que d'autres pays en Amérique du Sud vont prendre ce genre de mouvement aussi? C'est quelque chose que vous pensez qui est réaliste?
On a vu beaucoup de support de plein d'autres pays, d'autres politiciens qui ont démontré leur intérêt envers le Bitcoin en général, en mettant encore une fois leur laser eyes. Je pourrais pas les énumérer vite comme ça, mais je pense que c'est venu beaucoup d'une source assez élevée du Paraguay, sinon plein d'autres politiciens du Mexique et d'autres pays qui ont manifesté leur intérêt. C'est plus facile pour un pays qui a observé la chose s'opérer pour la première fois, surtout dans des contextes similaires. J'imagine en Amérique latine, ils ont sensiblement les mêmes problèmes de corruption, de tous les problèmes qu'il pourrait avoir en Amérique latine. Donc, s'ils voient que ça marche bien au El Salvador, ça pourrait donner l'exemple et je pense que c'est déjà en train d'arriver, c'est déjà en train de s'opérer, selon moi.
Ok. Juste peut-être pour préciser à ceux qui écoutent, les laser eyes, c'est une espèce de mime sur Twitter et les réseaux sociaux où les bitcoiners, ils ont des yeux laser. Et ce que je dirais, c'est comme une forme de... Ça témoigne cette énergie intérieure qu'a le bitcoiner qui est tellement forte que ça sort sous la forme de laser par ses yeux. J'avais peut-être aussi une autre question. Vous avez voyagé en Amérique du Sud. Vous pensez que c'est quoi le niveau de préparation des gens là-bas sur ces questions-là? Est-ce que c'est des gens qui connaissent déjà un petit peu le bitcoin? Est-ce que c'est des gens qui... Ou c'est comme partout, c'est-à-dire que les gens se posent pas de questions sur comment fonctionne l'argent? C'est quoi un petit peu le niveau des gens là-bas que vous avez rencontrés dans vos voyages?
Je vais peut-être y aller avec celle-ci, vu que ça fait un peu plus longtemps que je suis parti. Je te dirais que je pense que les gens, le peuple en général, c'est un peu pareil un peu partout, donc ils se posent pas trop de questions. Mais je crois quand même que les peuples de l'Amérique latine sont prêts à s'adapter plus facilement, selon moi, vu que justement, il n'y a pas de structure bancaire super établie, c'est vraiment en train de... Les changements puis le développement est en train de s'opérer. Donc, il y en a beaucoup qui vont utiliser des applications pour se virer de l'argent d'une façon ou d'une autre. Donc, c'est peut-être quelque chose qui est déjà établi ou quelque chose qui sont déjà habitués d'opérer au-delà d'un système qui est cadré, qui est carré un peu. Donc, pour moi, si le Bitcoin arrive dans leurs mains, ça va être plus facile de s'adapter pour eux. Ils vont peut-être moins le questionner. Puis Naturellement, je pense qu'ils ont une méfiance envers leur propre gouvernement, plus que, par exemple, les citoyens du Canada ou de l'Union européenne auraient envers leur gouvernement respectif. Donc, ça pourrait les pousser plus facilement vers le Bitcoin, justement, à cause de cette méfiance naturelle qu'ils ont déjà. C'est sûr que ça dépend d'un pays à un autre. Je pense, par exemple, au Costa Rica, c'est vraiment différent, par exemple, du Mexique. Au Mexique, c'est quelque chose de très connu que tu fais pas confiance à ton gouvernement, puis le gouvernement est pas là pour t'aider, non. Donc, c'est comme ça que je le vois. Ouais.
Ok, cool. En fait, ça donne un peu cette idée que comme il y a une méfiance naturelle, déjà des technologies qui existent, dans le fond, l'Amérique latine pourrait devenir un peu le premier continent Bitcoin si les gens switchent assez vite, puisqu'ils ont beaucoup à gagner et finalement moins à perdre que les États-Unis, par exemple, le Canada ou l'Europe. Cool. Est-ce qu'il y a des choses que vous voudriez ajouter sur cette question un petit peu de l'Amérique latine?
Ben, moi, j'aimerais rajouter juste quelques exemples que j'ai vus depuis vendredi, depuis samedi, en fait. Depuis cette conférence-là, selon moi, le monde a totalement changé et l'hyper-béconisation a officiellement commencé. Ce sont 10 pays d'Amérique latine qui ont signalé leur intérêt à reproduire le même projet que le Salvador. Des politiciens du Brésil, de l'Argentine, conseillers technologiques au président de la Colombie qui roule son propre nœud. Umbrella.
Surréaliste.
Ouais, c'est malade, là. Le Paraguay est en train de travailler sur une proposition officielle pour rendre la même chose applicable au Paraguay. On verra si ça se passe pour de vrai. Quelques îles aux Caraïbes, un politicien au Mexique. Au Pérou, il y a beaucoup d'intérêt vers là. Fait que selon moi, c'est juste le début. Les autres pays s'en viennent et ils s'en viennent très rapidement. En Afrique, il y a aussi quelques pays, je veux pas me tromper, fait que je veux pas nommer, mais pourrait revenir là-dessus, Emmanuel, qui sont aussi en train de porter de l'intérêt là-dessus. Ukraine et Géorgie, je sais pas, ils ont pas montré de l'intérêt, mais Bitfury, une compagnie de minage qui travaille dans ces pays-là, dit être en discussion avec le gouvernement pour refaire les projets de manière similaire. Donc, selon moi, c'est officiel, ça s'en vient. Le monde a changé, puis cette année, plusieurs autres pays vont joindre, et dans quelques années, ce sera presque tous les pays de la planète qui vont joindre.
Effectivement, je pense que c'est super, vraiment réaliste de dire que dans cette année, au moins un autre pays va le faire. Fait que dans 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, ce serait vraiment pas long avant que vraiment qu'une majorité de la population le passe au standard Bitcoin finalement. Ça va plus vite que ce qu'on pense. Bah, tu sais que t'avais des choses que tu voulais
Exact.
ajouter?
Gustavo a bien cerné, c'est vraiment, l'hyper-bitcoinisation est en marche. Les bitcoinais le répétaient depuis des années, puis on savait que ça allait arriver, mais quand ça arrive, c'est difficile d'y croire, mais c'est vraiment en train d'arriver. Il y a même pas un an, il y a même pas 2 ans, on rêvait encore des micro-stratégies ou de ce monde qui investissait des centaines de millions, puis là c'est rendu la normalité, c'est rendu un lundi où t'as des compagnies qui investissent des centaines de millions, puis maintenant des pays qui rentrent dans le standard Bitcoin. Donc, c'est vraiment le rêve, c'est notre rêve qui est en train de se réaliser. Donc, il faut pas lâcher, puis il faut redoubler d'ardeur puis d'efforts pour faire avancer les choses.
J'aime bien ce que tu dis de ne pas lâcher puis de redoubler d'efforts. Parce que je me posais justement la question, c'est que plus de gens arrivent dans le système et peut-être plus l'éthos, la philosophie de la communauté peut changer. Si on a dit au tout, tout, tout début que le statut n'était pas quelque chose qui était respecté par les bitcoiners, c'est-à-dire que seul comptait le message, est-ce qu'il est juste ou pas. Est-ce que vous pensez que il y a un risque éventuel dans cette adoption rapide, c'est-à-dire que beaucoup de gens vont entrer, est-ce que le Bitcoin va subir des modifications? Est-ce que vous pensez qu'il est vraiment indépendant de ça? Comment vous voyez un peu ça, ces changements de la masse de gens sous Bitcoin, donc la masse de gens qui partagent ces idées? Qu'est-ce que vous en pensez?
Selon moi, c'est pas une question tant de partager les idées. Moi, j'ai jamais été de croire que un jour toute la population mondiale va avoir ce genre de discussion. Selon moi, le Bitcoin, c'est une solution à un problème que t'as pas besoin de savoir comment il fonctionne pour comprendre pourquoi il règle ton problème. Et on voit déjà plusieurs pays parce que le Bitcoin est déjà énormément utilisé. C'est estimé qu'environ 40% de la population au Nigeria, qui est le plus gros pays en Afrique, avec plus que 200 millions de personnes, 40% de la population a déjà du Bitcoin l'année passée, avant tout ça. Donc, Je pense qu'on est déjà énormément en marche. Je pense pas que ces gens-là ont compris comment fonctionne un microgrid ou des concepts technologiques avancés. Et ils n'ont pas besoin de le comprendre. Ils ont juste besoin de comprendre que le Bitcoin est une meilleure solution à leurs problèmes que leur monnaie nigérienne ou les autres monnaies internationales. Et ils ont juste besoin de comprendre que quand leur gouvernement vient après eux, puis essaie de les censurer, de les confisquer leur réserve d'argent, ben ils ont le Bitcoin avec eux. Donc je pense que c'est ça qu'on va voir. On va voir des gens qui ont besoin du Bitcoin, qui l'adoptent. Et on voit au Salvador qu'ils utilisent Lightning. Donc le réseau est pas congestionné. Il y a déjà des dizaines de milliers d'utilisateurs au El Salvador en juste quelques semaines où est-ce que Strike et d'autres apps se sont lancées là. Et ça n'a pas congestionné le réseau. En fait, le réseau était totalement libéré il y a quelques jours. Donc, je pense que les choses vont se faire de manière beaucoup plus tranquille qu'on le prévoyait. Puis la question que je me demande, c'est celle que Francis Pouliot se demandait, c'était la question de est-ce que les gens vont contrôler leurs clés? Puis je pense que c'est juste une question pour des gens comme nous de travailler sur des outils pour offrir aux gens de contrôler leurs clés, de faire ça de manière privée, de faire ça de manière souveraine, tu sais. Parce que là, c'est sûr qu'il y a énormément de gens qui vont embarquer sur des projets custodiaux où est-ce que c'est un parti tiers qui contrôle leurs clés. Donc, je pense que c'est surtout ça la question à se poser.
OK, OK. Maciek, t'as un avis?
Peut-être la seule chose que je pourrais rajouter, c'est vraiment l'emphase sur les outils. Donc, il faudrait pas que la majorité des utilisateurs du Bitcoin se retrouvent sur des plateformes custodiales qui, dans le fond, c'est revenir un peu au même système qu'on avait déjà de bancaire. Donc, il faudrait s'assurer de justement apporter des outils des entrepreneurs comme nous ou des personnes influenceurs comme toi qui ont des audiences, de vraiment mettre l'emphase sur l'importance d'avoir ses propres clés, plus des power users aussi d'utiliser son propre nœud. Donc vraiment ne pas lâcher les ethos du Bitcoin originel, pour qu'il y ait toujours une base forte de Bitcoiners qui maintiennent ces valeurs malgré le fait que il y a des dizaines de millions, centaines de millions de personnes qui vont embarquer dans le Bitcoin.
Effectivement, faut travailler toujours la base, c'est celle qui porte le reste de la construction. Puis c'est bien que tu parles des clés, là il faut que je fasse un épisode sur quelle wallet choisir. Je l'ai pas encore fait, ça me le rappelle, puis je vais travailler là-dessus justement pour aider dans cette direction. Je repense à la conférence Miami. Est-ce que il y a des choses qui, je sais pas, vous ont, j'allais dire surprise, mais sur forcément la news du Salvador. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui vous ont surpris pendant que vous étiez là-bas? Vous vous êtes dit, waouh, ça, j'y avais pas pensé. Ça me fait voir les choses sous un nouvel angle. Est-ce qu'il y a quelque chose encore qu'on pourrait chercher là-bas?
Ben, évidemment, il y avait l'enregistrement de la conversation avec Russell Brick. La première conversation qu'il a eue avec un média depuis qu'il est en prison depuis 8 ans. Donc, c'était un événement assez touchant, puis assez marquant, puis il n'arrêtait pas de répéter durant son appel. Il disait « I want you to know what it is to lose your freedom » ou un truc « What it means to lose your freedom ». Puis ça m'a vraiment touché parce que on a vécu un peu tous dans un univers où on s'est fait, nos libertés ont été un peu maganiques, je dirais, durant la dernière année avec toute l'hystérie sanitaire. Mais pour moi, ça m'a un peu remis à la place, sachant que cet homme-là, il a fait quelque chose durant l'histoire du Bitcoin dès le début, puis il est encore en prison, puis il est en prison pour de vrai. Donc ça m'a remis un peu à ma place de ce côté-là. C'est vraiment l'ultime martyr du Bitcoin, c'est vraiment Ross, parce que lui, il a tout sacrifié pour prouver un peu que le Bitcoin fonctionnait, puis c'est grâce à lui, dans le fond, que peut-être le Bitcoin est où est-ce qu'il est aujourd'hui. Donc l'ultime but, je pense, des Bitcoiners, c'était un peu ça la conclusion, c'était de le sortir de prison un jour, préférablement d'une manière conventionnelle et non violente, mais bon, on va voir... c'est ça qui m'a marqué surtout, okay. Là, à part la nouvelle du Salvador.
Peut-être peux-tu préciser, tu dis qu'il a tout sacrifié pour montrer que ça fonctionne. Je ne sais pas si tout le monde sait qui est Russell Brick. Est-ce que tu pourrais nous expliquer qui il est?
Oui, bien sûr. Dans le fond, jeune développeur passionné vraiment de liberté, de marché libre complet. Quand lui a découvert le Bitcoin, pour lui, c'était la meilleure occasion, la meilleure chance d'offrir la liberté complète des gens. Fait qu'il a fondé Silk Road, qui était le premier marché libre sur Internet sur lequel c'était possible de payer les marchands en Bitcoin. Et évidemment, ça a donné que ce genre de plateforme a donné l'opportunité de vendre surtout de la drogue sur Internet, mais bon, c'était pas l'objectif principal qui est celui de vendre la drogue. C'était simplement d'offrir un marché vraiment d'un point de vue pratiquement philosophique complètement libre. Et lui, Ross Ulbricht s'est fait accuser dans le fond de trafic de drogue alors que lui, ultimement, il a jamais touché à quoi que ce soit. Il a juste fait rouler le site web qui permettait à n'importe qui de vendre n'importe quoi. Donc, il s'est fait donner deux sentences à vie plus 40 ans. Donc, c'est certain qu'il va pas sortir de prison à moins que bon, il se passe quelque chose de précis, il se fasse pardonner d'une manière ou d'une autre. Et ce qui est plus choquant, c'est que toutes les preuves dans le fond qui ont été utilisées pour l'accuser ont été invalidées par la suite. Et il y a eu des histoires un peu croche avec les enquêteurs FBI qui travaillent sur le dossier. Apparemment, il y en a un d'entre eux qui a volé les bitcoins que Silk Road avait emmagasinés. Donc, on voit que que Ross est devenu un peu le bouc émissaire de l'État pour montrer dans le fond si vous allez trop loin, puis si vous essayez de pousser votre idée vos idées libertariennes un peu trop loin, on sait comment vous trouver, comment vous punir. Donc malheureusement, c'est lui qui est tombé sous la lame du bourreau, mais donc c'est un peu ça l'histoire. Évidemment, c'est bien plus profond que ça, donc je pense qu'il y a beaucoup de podcasts à ce sujet. Je pense Peter McCormack a fait une série de comme 5 podcasts à ce sujet. Donc pour ceux que ça intéresse plus davantage, je vous invite à les voir. Et aussi, évidemment, les nombreuses pétitions freeross.org qui permettent de montrer votre support puis de signer des pétitions là, pour montrer le support. C'est une signature à la fois, mais je pense qu'ils sont déjà rendus à un demi-million de signatures. Donc, il y a vraiment du support derrière lui, puis ouais.
Merci pour partage. Je mettrai les liens dans la description de l'épisode vers cette série. Et Gustavo, est-ce que toi, c'est aussi la deuxième chose qui t'a le plus marqué après Salvador? Est-ce que c'était ou d'autres choses? Qu'est-ce qui, toi, t'a touché en plus que le Salvador?
Non, mais c'est définitivement ça. Je suis d'accord avec tout ce que Mathieu a dit. Si je pourrais ajouter d'autres choses par rapport à ça, dès le début, le maire de Miami a donné un discours en disant Miami est la capitale des États-Unis du Bitcoin au mondial. Venez ici, bâtissez vos business ici, on vous invite. On veut que tout le monde de Bitcoin vienne ici. Puis il y a plusieurs compagnies qui ont annoncé qu'ils vont ouvrir des bureaux à Miami. Je pense que la plus grosse étant blockchain.com. Ils vont ouvrir un bureau avec plusieurs centaines d'employés, mais entre autres d'autres types d'initiatives similaires. Ensuite, c'est Square de Jack Dorsey, la compagnie financière aux États-Unis, a annoncé qu'ils vont probablement lancer sur le développement d'un hardware wallet, un portefeuille physique à but d'utiliser avec l'application Cash App, qui est une des applications financières les plus utilisées aux États-Unis. Et non seulement ça, mais utilisable avec Lightning. Donc un portefeuille physique Lightning à code libre sur Cash App. Vraiment intéressant comme projet. Square a aussi annoncé un projet de minage avec Blockstream, je pense avec des panneaux solaires ou une autre type d'énergie renouvelable. Donc bon, c'est intéressant de voir que des trucs alternatifs s'essaient. Bon, je suis pas peut-être pas d'accord avec la thèse qu'ils essaient de pousser que il faut faire ça avec des énergies solaires, mais bon, c'est quand même intéressant de voir que des nouveaux trucs s'essaient. Donc ça, c'était très intéressant. Les autres événements, à part la conférence, étaient très divertissants. Toujours cool de rencontrer du monde que tu vois sur Twitter et que des fois tu les regardes, tu sais, avec un peu d'admiration, mais au bout du compte, c'est juste des gens comme toi. Donc je dirais que c'est ces choses-là qui m'ont marqué.
Cool, merci beaucoup. Juste pour préciser aux gens là que Square, souvent si vous allez dans des magasins, parfois il y a des petites boîtes carrées sur lesquelles vous pouvez taper votre carte de crédit. Si je dis pas de bêtises, c'est Square qui a développé ça. Est-ce que c'est correct? C'est bien ça?
Exactement.
Ok. Bah imaginons alors que cette petite boîte carrée, après vous pourrez payer en Bitcoin avec parce que ils peuvent déployer rapidement d'autres outils là-dessus, fait que en fait l'adoption du Bitcoin pourrait être vraiment vraiment plus rapide que ce qu'on pense, puisque le matériel est déjà présent, les compagnies commencent à travailler dessus, donc soyez à l'affût. Je pense aussi à un truc que t'as dit, tu rencontres des gens qui sont très impressionnants, mais qui finalement sont des gens un peu comme toi. Je voudrais venir sur cette un peu polémique qu'il y a eu récemment sur Twitter avec Breedlove. Donc pour ceux qui connaissent pas, Breedlove, c'est un gars qui a écrit pas mal d'articles super intéressants sur le Bitcoin, vraiment très très réfléchi, et puis qui récemment s'est mis à un peu promouvoir une escroquerie, et donc les gens lui sont tombés dessus directement parce que son statut d'influenceur ne l'a pas protégé des mensonges qu'il a diffusés, quoi. Donc je trouve ça intéressant ce que tu disais, parce que tu te rends compte que tous les gens sont égaux en termes, entre guillemets, dans l'univers Bitcoin. Est-ce que vous avez des choses là-dessus qui vous viennent quand je dis ça?
Ben, en général, juste, il faut pas, t'sais, voir de trop haut, de trop bas les gens, t'sais, mettre les gens sur un piédestal, là, tant que ça, t'sais. Puis la communauté Bitcoin a tendance à faire ça. C'est un peu une chose similaire avec Elon Musk. Elon Musk vient, tout le monde lui donne l'attention, c'est l'héros, c'est le sauveur du Bitcoin. Puis 3 semaines plus tard, tout le monde l'haït, puis parce il s'est tourné le dos, t'sais. Mais Breedlove, encore une fois, de manière similaire. T'sais, Breedlove, il a selon moi décidé de faire de l'argent rapide avec un autre projet, BitCloud, qui est clairement un scam, une escroquerie. Puis il a pris cette décision, puis tout le monde ensuite lui a dit que c'est pas bon ce qu'il a fait, puis il a pas été capable d'admettre son erreur, de doubler là-dessus, puis nous voilà maintenant ici, tu sais. Puis la leçon, ben, c'est juste, en fait, je pense que les gens ont bien réagi. Je pense que dans le passé, on a appris à réagir de cette façon-là, tu sais, avec Roger Ver, puis avec Bitcoin Cash, puis avec tout, c'est pas la première fois que des trucs comme ça arrivent. Tu sais, puis je mettrais pas Breedlove dans la même case que Roger Ver. Je pense que Breedlove est vraiment moins spécial. Il a juste fait un tweet sur un projet. Il l'a pas construit. Oui, il a pas passé des années à le promouvoir. Mais quand même, il faut juste, je pense qu'on, la communauté Bitcoin a une bonne attitude, tu sais, directement sauter sur quelqu'un qui est en train de promouvoir des escroqueries. Puis, dans le fond, je pense que quelqu'un a dit, il faut être prêt à couper la tête de ses zéros.
Je te fais d'accord. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter, Maciek?
Ouais, en fait, moi, j'ai trouvé ça très étonnant que ça vienne de Robert Breedlove. D'ailleurs, lui avait organisé un événement connexe durant la conférence qui s'appelait The Soul of Bitcoin, donc l'âme du Bitcoin. Donc, c'est un très bon parleur. C'est quelqu'un qui sait bien utiliser ses mots, qui sait charmer des foules, qui lui-même est, tu sais, assez imposant, assez charmant comme personne en général. Donc, il incarnait un peu la pureté du Bitcoin par sa personne même. Donc, durant l'événement, évidemment, il a expliqué le why du Bitcoin, le pourquoi du Bitcoin. Et la conclusion, c'est le pourquoi du Bitcoin, c'est la liberté. Donc, tous des tu vois ce que je veux dire? Quelqu'un d'idéal qui partage des idéaux parfaits pratiquement sans faille. Et bon, 2 3 jours après la conférence, sous le couvert de la curiosité intellectuelle, il partage un scam, puis demande, puis bêtement, comme s'il a jamais été vraiment un bitcoiner, il demande: ouais, mais comment vous savez que c'est un scam? Vous avez regardé? Non, on n'a pas besoin de regarder, on a déjà fait ça. On a eu cette histoire des millions de fois, là. On n'a pas besoin de refaire la même chose à chaque fois, t'sais. Fait que pour moi, c'était très étonnant, sachant que j'ai un peu participé à son événement puis tout. Mais bon, il faut savoir couper la tête de ses zéros, comme Gustavo a dit. Je pense pas que ça enlève quoi que ce soit à ses écrits en tant que tel. Je pense que ces écrits sont encore valides, puis ils devraient pas. Par exemple, celui que j'ai vraiment aimé, c'est le Bitcoin is zero, ou quelque chose qui compare Bitcoin à l'invention du chiffre zéro. Ça, j'ai trouvé ça excellent. Donc, je pense pas qu'il faut nécessairement, bon, brûler ses écrits, puis condamner tout ce qu'il a écrit ou ce qu'il dit. Mais bon, il faut rester méfiant par rapport à n'importe qui, là.
Ouais, je suis d'accord. Je partagerai le lien aussi de cet article. C'est un article en anglais. C'est le nombre 0 et Bitcoin. C'est 30, 40 minutes de lecture, mais c'est très, très impressionnant. Et je trouve ça cool en fait parce que finalement, le fait qu'il faille tuer ses propres héros lorsqu'ils sont malhonnêtes, c'est cool parce que ça nous force nous aussi à nous remettre en question parce que on se rend compte que même quelqu'un qu'on pense idéal ne l'est pas. Donc ça veut dire que soi-même, si un jour on a l'idée qu'on se croit parfait, vu que les autres humains ils se trompent aussi, c'est qu'on sait qu'on est aussi à risque de se tromper quoi. Et ça, je trouve ça intéressant parce que ça force une forme d'humilité sur soi-même quoi, d'être capable de se remettre en question puis de se dire je peux rater quoi, je peux me tromper donc faut que je sois les yeux ouverts quoi.
Oui, je pense que tu as totalement raison. Je pense que les personnes qui sont populaires dans l'univers du Bitcoin puis qui vont à une conférence vont se faire un peu aveugler par leur propre popularité parce que c'est sûr qu'il va y avoir des centaines de personnes des personnes qui les suivent sur Twitter qui ont pas nécessairement interagi qui vont venir les voir, qui vont dire je suis un grand fan et tout ça. Peut-être que ça leur monte à la tête puis ils se croient investis par la suite. Et évidemment, ils se font aussi approcher par sûrement des scammers durant la conférence pour promouvoir X, Y. Peut-être justement, ce que tu as dit, l'humilité, là, je pense que c'est très important dans cet univers aussi.
Je garderai ça en tête. Si jamais un jour ce podcast écouté par des millions de personnes, faudra rester humble. Ok. Est-ce que tu avais quelque chose à ajouter, Gustavo?
Ah non, à part que j'ai ri beaucoup de ta joke que tu viens de faire, mais j'étais muté.
Ok,
Et à part de ça.
cool. Bah écoutez les gars, moi c'était déjà pas mal sympa. Est-ce que je sais pas, il y a d'autres trucs dont vous voulez parler, je sais pas, des trucs sur le Bitcoin ou même rien à voir?
Oui, Taproot.
Ah
Fait que
ouais.
Taproot est officiellement activé. Ça s'est activé ce matin. Pour ceux qui savent pas, depuis un mois environ, on essaye d'activer Taproot dans le réseau. Puis il y avait un gros débat sur comment l'activer. Puis est-ce que ça devrait être les mineurs qui l'activent? Est-ce que ça devrait être les développeurs? Finalement, on a décidé qu'on allait donner une chance aux mineurs de signaler leur activation. Puis s'ils le faisaient pas, la communauté allait le faire par la suite. Mais les mineurs l'ont fait. Donc Taproot va faire partie du code dans quelques mois. Là, c'est activé. Donc il faut laisser le temps au monde de actualiser leur logiciel, mais dans quelques mois, probablement en octobre, novembre, ça va être officiel et ça va n'importe qui pourra faire des transactions Taproot. Ce que Taproot ramène, c'est plus de scalabilité, environ 25% d'optimisation des transactions, donc 25% plus de transactions qui pourraient rentrer. Et vu que chaque transaction prend 25% moins de place, ben moins de frais payés par transaction aussi. Taproot amène surtout la complexité dans les scripts, dans disons, les contrats intelligents en Bitcoin. On peut rajouter bien plus de conditions et bien plus de complexité. Et ce qui est surtout intéressant de Taproot, en fait, c'est que ça ramène plus de protection de la vie privée des transactions. Donc, chaque transaction, que ce soit une transaction avec un script super compliqué, une transaction Lightning, une transaction multisignature ou juste une transaction régulière, toutes les transactions auront l'air pareil pour une tierce partie qui essaie d'analyser le réseau. Donc, dans le futur, le Bitcoin pourra rentrer 25% plus de transactions, puis elles auront toutes l'air pareil et elles auront toute une complexité de contrats intelligents cachés du monde entier. Donc, pour moi, c'est très intéressant que Taproot fait partie du réseau maintenant, puis tu sais, que ce soit tout en même temps, Salvador, Taproot, c'est juste vraiment cool et ça motive énormément.
Un petit peu comme si les étoiles s'alignaient encore.
Exactement.
Ouais, je sais pas si j'ai bien compris, j'écoutais un podcast en anglais sur ça là, si j'ai compris, tu pourrais même faire des signatures résistantes aux algorithmes quantiques. Mais je sais plus comment ça marchait. Voilà, je vais pas m'en lancer là-dedans là, je crois que j'allais réécouter ça, mais ouais, en gros, Taproot, c'est une amélioration du protocole Bitcoin. Donc, ça veut vraiment dire on change les règles parce que les règles du protocole changent très, 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 très lentement. C'est intentionnel, c'est parce qu'on veut justement rien casser, être sûr que tout fonctionne. Donc là, c'est un changement important qui va améliorer donc le fonctionnement du réseau Bitcoin. Donc, c'est comme une belle avancée. Donc, tous ceux qui pensent que Bitcoin est un dinosaure qui n'avance pas, ben, ils se trompent. Voilà, je pense que c'est aussi simple
Ben,
que
je
ça.
pense que tous ceux qui croient ça, ils se font simplement propagandiser par leurs shitcoins respectifs. Donc, ils savent pas de quoi ils parlent, tout simplement.
Ouais, je suis d'accord. Mais bon, on fait nous notre propre propagande, mais elle est basée sur les faits, on va
Ouais, c'est ça.
dire.
La nôtre, c'est la vraie.
Je vous jure, elle est meilleure. Ok. Est-ce que tu as des trucs à ajouter aussi, Maciek, avant qu'on clôture?
Ouais, peut-être plus d'un point de vue local. Bon, sachant que nous, on est parti à l'étranger, ça fait quelques mois. On est de retour très bientôt à Montréal, donc sachant aussi qu'il y a un déconfinement qui est en train de s'opérer à Montréal et au Québec, et qu'on est les organisateurs de Bitcoin Montréal dans les semaines qui suivent, ou dans le prochain mois plutôt, on va probablement organiser un événement. Je sais que tes auditeurs sont probablement plus français. Que québécois, je sais pas exactement, mais c'est juste pour dire dans le fond que on va être de retour dans la partie d'un point de vue local avec Bitcoin Montréal pour des meet-ups et tout ça.
Génial, génial. Ben, j'ai des auditeurs de tous les pays, donc beaucoup France, c'est vrai, mais aussi Québec, l'Afrique aussi un petit peu, donc c'est pas mal. Cool, excellent. Ah bah écoutez les gars, merci beaucoup. C'était super stylé. Je suis content d'avoir appris ça sur la conférence, puis sur Taproot, tout ça, tout ça. Merci beaucoup.
Merci beaucoup à toi, Emmanuel. C'était super.
Merci à toi, Emmanuel. Bye
bye. À bientôt.
Bye.